France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse, désormais tous les vendredis à 10h. Et ce matin, le bonheur selon le dessinateur et scénariste de BD Julien Bergeau, alias Jules, qui publie Picsou et les Bitcoin-Coins. Dans ses interviews, dans divers médias, l'auteur de Silex and the City ou de La Planète des Sages donne l'image d'un garçon espiègle et joyeux. Mais quelle est donc sa conception du bonheur, lui qui a appris à se méfier des injonctions de toutes sortes? Quel rapport Jules entretient-il avec la question de la mort? Lui qui a perdu son père il y a quelques semaines, cette interrogation sur la finitude entache-t-elle son aspiration au bonheur? Vous verrez également que les attentats de Charlie Hebdo il y a 10 ans ont radicalement changé son rapport à l'existence. Avec nous ce matin également, le psychiatre François Lelore. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Chercheur en philosophie, quel est le menu de votre punchline philo? Ces célèbres phrases qui ont émaillé l'histoire de la pensée.
Eh bien, cette semaine, on s'intéresse à une punchline de Claude Lévi-Strauss, celle qui ouvre son livre Triste Tropique. Il nous dit « Je hais les voyages et les explorateurs ».
Bonjour Sandra Colombo.
Bonjour Ali.
Comédienne et humoriste, quel est le menu de votre ciné-thérapie en remplacement de Guillemette Odissino cette semaine?
Eh bien Ali, vous allez peut-être être horrifié, mais Maria Carré l'a déclaré « It's time !» Donc ça y est, je peux vous parler des films de Noël.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, l'émission qui donne du sens à votre vie quotidienne.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Le bonheur, c'est quand on n'est pas malheureux. Et quand on a été vraiment malheureux, bah je vous jure que tout d'un coup, ne plus l'être, qu'est-ce que c'est bon? Le bonheur n'est pas dans l'avoir, il n'est pas non plus dans l'être, il est dans le faire.
Le bonheur selon André Comte-Sponville, mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est le bonheur selon le dessinateur et scénariste Jules. Bonjour Jules.
Bonjour.
Alias Julien Bergeau, scénariste, dessinateur, créateur des BD à succès, Silex and the City, co-auteur notamment de 50 nuances de grec et de La Planète des Sages avec Charles Pépin. Et vous avez co-signé plusieurs albums de Lucky Luke et de Spirou, et vous publiez chez Glénat une BD qui a reçu le label France Inter, Picsou et les Bitcoin-Coins. Alors j'ai eu envie de vous inviter ce matin pour évoquer la question du bonheur, car au fil des interviews, vous donnez l'impression d'être un individu joyeux, plutôt heureux. Ça tombe bien parce que le bonheur, c'était un sujet récent de dissertation de l'une de vos filles. En préparant cette émission, vous m'avez dit que le bonheur, c'était pour vous une question pragmatique et empirique.
Oui, je me méfie quand même pas mal des définitions. Et alors André Comte-Sponville ou les philosophes ou les, vous savez, les petits bonbons batchi là qu'on déploie où il y a des espèces de conseils pour être heureux, ou bien les fortune cookies chinois hein, dans lequel il y a des en deux phrases le secret du bonheur. Je m'en méfie un peu. Et c'est vrai que c'est quelque chose que probablement une praxis, quelque chose qu'on peut éprouver, quelque chose qu'on peut ressentir. Il y a toujours aussi cette phrase tarte à la crème. On reconnaît le bonheur quand il a disparu par le bruit qu'il fait en s'en allant. Je crois même exactement. En fait, effectivement, peut-être il y a des définitions en creux qu'on peut trouver, mais bien malin qui saurait exactement saisir cette espèce de sentiment fluide et complexe. En tout cas, voilà, c'est probablement plus un affect qu'une notion philosophique. En tout cas, il n'y a que ça qui m'intéresse dans le bonheur. Le reste, je m'en fiche un peu.
Vous le confondez avec d'autres affects, ce bonheur, avec la joie, par exemple?
Oui, parce que si vous prenez les annales du bac, hein, pour la question de philo bonheur, tout de suite, on dérive vers la question du plaisir, la question du désir et la question de la joie. Et on a du mal finalement à attraper le bonheur juste par un seul bout. Et est-ce que ça se confond avec ces différentes notions? Alors, on ne sait pas. Moi, j'essaye de, je dirais, d'avoir une espèce d'approche peut-être modeste et à ras des pâquerettes de ce que ça peut être, et plutôt dans le sentiment de vie et de la force qui peut nous traverser à ce moment-là. C'est presque animal, finalement.
Thibaut de Saint-Maurice.
Ce qu'il y a de bien avec cette question du bonheur, c'est qu'il y en a pour tout le monde. En fait, ça peut être un problème philosophique, ça peut être un problème physiologique ou voilà, de médecine, ça peut être aussi une question de psychologie, et puis ça peut être une question poétique, littéraire, trouver des formulations, décrire des situations, se rattacher à des personnages qui sont des modèles de joie ou des modèles de réaction. Et donc, le fait qu'il y en ait pour tout le monde, ça montre qu'à la fois, c'est un problème problème central de nos existences. C'est-à-dire, c'est comme ça que, par exemple, Aristote commence un de ses bouquins les plus célèbres, l'éthique à Nicomaque, en disant que tout le monde cherche le bonheur et que même celui qui vous dirait non, moi ça m'intéresse pas, bah, en fait, si, quand même un peu. Donc ça concerne un peu tout le monde, mais il y a ce petit paradoxe, c'est que plus on cherche à le définir, à l'enfermer, à le caractériser, presque à l'observer, etc., plus on a l'impression qu'il nous échappe. Et j'aime bien un truc tout simple qui est de revenir, c'est un peu facile, mais à l'étymologie. Dans le bonheur, en fait, il y a l'heure de la rencontre. Et en fait, le bonheur, c'est aussi une bonne rencontre. C'est quelque chose qui est de l'ordre, d'une certaine manière, de la surprise, de l'imprévu. Ce bonheur nous échappe sûrement parce qu'il ne dépend pas fondamentalement de nous.
Jules.
Et c'est tout le contraire de, je dirais, l'utilisation promotionnelle du bonheur, hein, en fait, dans une société ultra-marketing. Je me souviens, en fait, et j'avais dit à ma fille, mets-le dans ta disserte, c'est le bonheur si je veux. Qui était le slogan, je crois, du Club Med, oui. En fait, pendant des années. Ouais. Et le bonheur si je veux, ça n'a tellement aucun sens, c'est presque comique.
Bonjour François Lelore.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychiatre, vous avez coécrit avec Christophe André et Antoine Pellissolo les nouvelles personnalités difficiles, mais également Le voyage d'Hector ou La recherche du bonheur en best-seller, disponible en poche chez Odile Jacob. Votre définition du bonheur, François Lelore, après ces longues années de pratique de psychiatre.
Je dirais qu'on n'a pas une seule, une unique, et dans, je disais que le bonheur c'est un peu comme un bouquet de fleurs. Mais c'est à chacun de trouver son arrangement favori. Par exemple, puisqu'on parlait des philosophes, il y a Aristote, lui, parle du bonheur dans l'activité orientée vers un but, le démonia. Et nous, on a une civilisation qui propose plutôt le bonheur hédoniste, l'hédonia, c'est-à-dire le bonheur du plaisir, de la fête, etc. Donc c'est deux bonheurs un peu différents. Et on en a tous des séquences dans notre vie. Puis aussi le bonheur de la relation heureuse avec les autres, puisque je ne sais pas si on va parler de l'étude de Harvard, mais qui montre qu'un des facteurs déterminants sur le bonheur au long de la vie, c'est d'avoir des bonnes relations avec les autres, que ce soit votre conjoint, votre environnement, des amis fiables et même une activité engagée dans la société.
Oui, l'étude de Harvard, c'est cette très longue étude menée depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui pour définir quels sont les ingrédients du bonheur. Et quels sont les principaux enseignements de cette très très longue étude ?
Ben oui, c'est une très longue étude qui a commencé en 1937, vous voyez, donc on a pris des jeunes étudiants de Harvard, et puis quelques années après, on a pris aussi des jeunes d'un quartier désavantagé, déshérité de Harvard, pour pas quand même s'intéresser qu'aux blancs protestants issus de familles riches, et on les a étudiés, ben jusqu'à maintenant, l'étude continue. Et alors on étudie au départ, c'est une étude qui essaie de voir les prédicteurs de la santé, vous voyez, qu'est-ce qu'il fallait faire pour vivre longtemps. Et puis après les psychiatres sont arrivés dans le jeu et ils ont dit mais il faudrait peut-être s'intéresser au bonheur, la satisfaction de vie. Et l'étude a continué et maintenant on s'aperçoit, alors tout compte bien sûr, vaut mieux être en bonne santé pour être heureux, vaut mieux ne pas être dans la pauvreté, etc. Mais ils ont vu que le déterminant principal, toute classe confondue, c'est la qualité des relations et des connexions. C'est-à-dire, finalement, la solitude ou les conflits sont plus mauvais pour la santé que le tabac et l'alcool. Ça paraît paradoxal, mais c'est vrai.
Alors, à propos d'importance fondamentale des relations sociales et humaines comme vecteur de bonheur, votre grand-mère maternelle, Jules, a été très importante.
Oui, parce que elle m'a transmise, elle et finalement toute cette famille, un peu cette smala, une espèce de sens de l'immédiateté à saisir, du plaisir, tout simplement. Avant même que je sache parler, probablement, elle me glissait à l'oreille, le plaisir est fugitif. Alors c'est un petit peu flippant, hein, évidemment, parce que ça donne tout de suite le sens de la perte, et en même temps l'urgence de saisir les choses telles qu'elles se présentent. C'est un peu le carpe diem à la tunisienne qui m'a été transmis presque intra-utéro, je dirais.
À la tunisienne, puisque votre mère, juive tunisienne, vous citez souvent ce proverbe « Ris de la vie avant que la vie ne rie de toi ».
Ouais, c'est peu ou prou, etrak men deniak bel etrak men nek.
Vous parlez mieux arabe que moi.
Je suis validé par Ali. Mais oui, en fait, moi, je le répète à qui veut l'entendre, c'est un peu rigolo comme formule, mais c'est vrai qu'elle a une justesse et une légèreté, parce que finalement, c'est une réponse, je dirais, un peu plus solaire à l'à quoi bon.
Et votre mère vous disait, pour que le bonheur advienne, il est essentiel de considérer le monde comme une vallée de larmes dont il ne faut rien attendre.
Bon, c'était pas une télévangéliste, ça c'est plutôt moi qui dis ça. Et, mais c'est, non, mais c'est vrai que moi, j'ai cette dimension-là un petit peu apocalyptique. Parce que, malgré tout, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve transversalement chez beaucoup de gens qui font profession d'humoriste, hein, que ce soit des gens sur la scène, des gens qui font des films, des auteurs de bandes dessinées, comme c'est mon cas. Moi, je me suis déployé en dessin uniquement dans le domaine de l'humour. J'ai rarement réussi à diverger de cette, j'irais, de cette famille-là. Et très souvent, en partage, il y a quelque chose de très sombre. Une angoisse, un drame, parfois des traumas, ou en tout cas, une vision quand même très engluée dans la vie. C'est une façon d'exister autrement, de chasser ça, et ça permet, c'est un bon terreau, en fait.
Et Jules, vous êtes né angoissé, littéralement.
Oui, non, parce
que, en fait, de vos trois premiers mois
très,
de
très
vie.
Bizarrement, les trois premiers mois de ma vie, j'ai pleuré 18 heures par jour et dormi le reste du temps, sans discontinuer. Et tant et si bien que j'avais une espèce de camisole chimique, parce que mes parents me donnaient un sirop pour adultes qui faisait complètement dormir, qui a été même interdit pour les adultes par la suite, pour m'assommer, et puis me faire dormir. Ils ne savaient pas que c'était mauvais, hein, à l'époque, il y avait une espèce d'insouciance. Mais c'est vrai que j'ai mis du temps à me remettre de ça, de la naissance. Mais parce qu'en plus, on m'a sortir avec des pinces. C'est-à-dire que j'ai une tête bizarre, mais j'avais une tête en sortant en forme de cacahuète, parce qu'on m'a sorti au forceps, comme ça devait être un petit peu hardcore. C'est pas du tout un accueil sympathique. Et à partir de là, effectivement, il n'y a pas grand-chose dans la sensibilité que j'ai pu avoir au monde qui n'a pas été heurtante et rebutante face à ce qui se déroulait devant nos yeux aussi.
Et cette angoisse chronique, ce sentiment profond du malheur du monde, continue encore à vous accompagner à plus de 50 ans ?
Oui, bah, de toute façon, moi, je suis quand même assez bêtement sensible. Mais en même temps, je m'en nourris, j'ai une distance par rapport à ça, j'en rigole aussi. Et donc, c'est assez utile, finalement.
Et cohabite en vous, Jules, un pessimisme existentiel et un optimisme dans la vie ordinaire.
Oui, bah c'est un peu comme... le monde est très binaire, comme souvent. Il y a les gens qui lisent Télérama, les gens qui lisent Télé 7 jours, c'est un peu le voilà. Et ben, de la même façon, il y a les gens qui sont un peu optimistes au quotidien et pessimistes, je dirais, en termes métaphysiques, et le contraire, c'est-à-dire que des gens qui se font chier tous les jours, mais en même temps qui ont une espèce de pensée des téléologiques, des fins ultimes, qui font que tout va s'arranger, les choses ont un sens, et puis à la fin, ça va bien aller quand même. Ce qui n'est pas du tout mon cas, vous l'aurez noté.
Sandra Colombo ?
Bah moi, je suis tellement d'accord. Moi qui fais de la scène, et c'est mon métier de faire des blagues, je pense que les gens qui sont très drôles, qui en font leur métier notamment, c'est des gens qui ont une faille énorme. Et en effet, on est complètement heurté par le monde, et ce qu'on essaye de faire, c'est s'en défendre. C'est un travail, en fait. Vraiment, il y a une sorte de travail de pensée à l'optimisme qui est obligé, parce qu'en effet, on sait que ça va mal finir.
Docteur François Lelor, vous avez deux bons patients potentiels.
Écoutez, je ne sais pas, mais moi je me dis, bah, c'est vrai, parce que moi qui ne suis pas drôle du tout, finalement je me sens très joyeux.
Oui, et puis par rapport à ces histoires de pessimisme et d'optimisme, il y a cette phrase terrible et horrible et drôle à la fois que racontent les Américains à propos des Juifs d'Europe de l'Est, ah oui. D'avant-guerre, qui disent que...
Oui, je crois que c'est Billy Wilder.
C'est fort possible, et qui disait que voilà, les pessimistes avaient fini à Hollywood et les optimistes avaient fini à Auschwitz. Et en fait, voilà, il y a aussi une stratégie de survie dans la pensée sombre, la rumination, et qui peut accompagner justement la vie de manière paradoxalement vivable.
Une bien belle transition avec la cinéthérapie de Sandra Colombo.
France Inter.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Grand bien vous fasse.
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
Alors aujourd'hui, Ali, pour contrer le marathon de la loose que constitue cet interminable mois de novembre, j'ai envie de vous prescrire de la guimauve, du gnangnan, du cucu. Ah oui. J'ai nommé les films de Noël. Alors, ne croyez pas que c'est un truc de vieille fille désespérée, hein, ou alors on est très très nombreuses, parce que les chiffres d'audience sont faramineux. C'est devenu une tradition, un peu comme les pulls moches de Noël, à tel point que cette année, en France, le premier film de Noël a été diffusé à la télé le 13 octobre. Bah oui, bon, en même temps, qu'est-ce que vous voulez, ces films, c'est de la magie à pas cher, du feel good saveur pain d'épices. On allume son écran et paf, déferle-neige, biscuits à la cannelle, famille tellement aimante. Bah on chope du diabète rien qu'en regardant ces romans sucrés. Mais à une époque où on a l'impression que les trompettes de l'apocalypse ont sonné, est-ce qu'on va se priver de cet effet doudou ? Que nenni, Ali. Je vais donc vous parler d'un de mes films de Noël préférés, Love Actually. Alors oui, je sais, je prends des risques, et pas que à cause de mon accent anglais. Mais pourquoi Sandra Colombo, qui se targue d'être féministe, va parler de Love Actually? Déjà que bon, parler des films de Noël, rendez-nous guillemets Odissino. Oui, parce qu'on va pas embellir la vérité avec une guirlande clignotante, hein, ce film sorti en 2003 est le pur produit de son époque, et certaines lignes de dialogue font aujourd'hui grincer des dents. Et fort. On lui reprochera son sexisme, sa grossophobie, son absence criante de diversité. On peut aussi lui reprocher le défaut majeur des films chorales. Et là, je ne veux pas parler de la cultissime scène des pancartes où Marc vient déclarer son amour à Juliette. Je veux dire chorale, au sens de beaucoup de personnages, donc trop peu de temps alloué à chacun, et donc des intrigues et des caractéristiques un peu faibles et des personnages un poil caricaturaux. Oui. Mais...
Toutes les fois que je déprime en voyant ce qui se passe dans le monde, je pense à la zone d'arrivée des passagers de l'aéroport de Londres. De la vie générale, nous vivons dans un monde de haine et de cupidité. Je ne suis pas d'accord. J'ai plutôt le sentiment que l'amour est présent partout.
Un film qui commence comme ça, ça peut pas être un film entièrement à jeter. Alors oui, on l'a vu mille fois, mais c'est ça qu'on aime. On peut piquer un petit roupillon tranquille, on comprendra toujours où on en est. On reste dans sa zone de confort, on connaît tout déjà, ça fait du bien. On rit, on est ému, tout est prévisible, il n'y a pas de guerre, pas de menace. Oh là là, c'est génial. Et puis alors les scènes mythiques qu'il y a dans ce film, on a tellement de plaisir à les retrouver. L'emballage du cadeau qui dure des plombes par Mr Bean, ça dure. C'est hyper drôle. La kermesse de Noël, où le petit Sam qui a appris à jouer de la batterie, qui a cassé les oreilles de tout le monde pour impressionner son amoureuse Johanna. Et bien sûr, Hugh Grant qui incarne le Premier ministre dont on rêve.
Nous sommes un petit pays, certes, mais nous sommes une grande nation. Patrie de Shakespeare, de Churchill, des Beatles, de Sean Connery, Harry Potter, du pied droit de David Beckham, de son pied gauche aussi quand j'y pense. Quand un ami nous tyrannise, ce n'est plus un ami. Et puisqu'un tyran ne comprend que la force, je suis prêt aujourd'hui à faire preuve de plus de force.
Allez revoir la scène de la danse mythique sur Jump, c'est génial. Moi, je rêve de voir notre Premier ministre en faire autant, je ne vous le cache pas. Ah et oui. Si je vous dis qu'en plus, c'est un film qui a été écrit et réalisé par Richard Curtis, le scénariste de Mariage, 4 mariages et un enterrement, Coup de foudre à Notting Hill, Le journal de Bridget Jones, Good Morning England, alors là, normalement, vous n'avez qu'une envie, vous enfouir et peut-être même vous enfuir sous un plaid moelleux, allumer votre écran et plonger dans ces 2h15 de bonheur. Et puis Love Actually, c'est une BO géniale, un humour anglais corrosif, une furieuse envie de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Et est-ce que ça serait pas ça, finalement, un peu l'esprit de Noël?
Et je suis en train d'imaginer Sébastien Lecornu en train de danser sur Jump. Le regard de Thibaut de Saint-Maurice qui adore les comédies romantiques et qui adore Love Actually.
Oui, parce que en fait, ça résonne assez bien avec ce qu'on se dit. C'est-à-dire que dans les comédies romantiques, vous remarquerez, il y a deux histoires un peu qui sont toujours en train d'être tissées. Il y a l'histoire de, en fait, ils étaient faits l'un pour l'autre, donc tout était écrit d'avance et on regarde comment est-ce qu'ils vont se rencontrer. Ou bien alors l'histoire de l'heureuse surprise, divine surprise. C'est-à-dire que vraiment, pur hasard, rien n'était écrit et pourtant ils se sont trouvés. Donc c'est un peu ces deux narratifs du bonheur en fait aussi qui peuvent nous éclairer. C'est-à-dire que d'un côté, croire que le bonheur en fait dépend d'une sorte de destin où tout est écrit d'avance et donc si on est heureux ou malheureux, bah, c'est en réponse à ce destin. Et de l'autre côté, plutôt une sorte de moment de pur hasard, de bon alignement de planètes où tout d'un coup, bah, les conditions sont réunies et ça fonctionne. Et ça, je trouve que ces comédies romantiques ou versions films de Noël qui sont souvent un petit peu méprisées pour leur côté, bah oui, un peu sucré ou un peu revu, en fait, nous apprennent, je trouve, de façon assez subtile comment jouer entre ces deux logiques-là.
Merci beaucoup Sandra Colombo, la cinéthérapie, c'est à podcaster, à partager depuis l'appli Radio France. On accueille Grégory Cohen, bonjour.
Bonjour Ali.
Notre Hugh Grant, chef des restaurants One Place à Rungis dans le Val-de-Marne. Vous reviendrez tout à l'heure sur les bonheurs gourmands de notre invité.
Avec plaisir.
Dans un instant, on continue à explorer le bonheur selon le dessinateur Jules. Ce sera juste après avoir écouté Carla Thomas, Baby, une chanson de 1966.
Baby, oh baby, I love for you.
look so good to me, baby. Baby,
baby.
Oh, baby, how I love for you to call me, baby.
Carla Thomas, interprétée Baby.
La joie de vivre.
France Inter.
La joie de vivre et le jambon.
Grand bien vous fasse.
Il n'y a pas 36 recettes du bonheur.
Ali Rebbi.
Et ce matin, dans Grand bien vous fasse, le bonheur selon le dessinateur et scénariste Jules, en compagnie du psychiatre François Lelore. Tiens, justement, vous fréquentez les cabinets de psy, de psychiatre, de psychologue ou de psychanalyste ?
J'adore les psys. J'ai grandi dans un multiverse psy parce que en fait j'ai été dans une école en banlieue parisienne de la maternelle à la troisième, qui est une école expérimentale un peu avec des pédagogies actives dans le style Montessori, publique cependant, qui s'appelait l'école de Crowley et quasiment 100% des enfants avaient au moins un parent ou prof ou psy. Tant et si bien qu'en fait, mes parents étant profs, j'allais jouer chez mes copains dont les parents étaient psy. Et en fait, les divans et les cabinets de psychanalystes ont été mon terrain de jeu au départ. Et évidemment, j'avais une espèce de familiarité naturelle avec tout ça. Et donc, j'ai adoré fréquenter mon psy pendant de longues années. Alors, j'ai plus de nouvelles pendant longtemps, mais là, il va bien et il vous embrasse.
Est-ce que ça a apaisé vos angoisses chroniques, la fréquentation des psys ?
En tout cas, c'est très utile, en fait. Moi, je fais vraiment partie des gens. Parfois, certains artistes disent que ça va assécher leur créativité, qu'au contraire, s'ils explorent du côté de la psychanalyse ou de la psychiatrie des choses qui les habitent, ils ne vont plus avoir leur source d'inspiration. Je ne crois pas. Au contraire, ça la déploie de manière différente. Ça lui donne un lustre, un luisant, appétissant. Vous savez, comme quand on fait frotter des pommes et qu'on les pose sur une assiette.
François Lelore ?
Oui, moi, je serais d'accord aussi avec ce que dit Jules. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout que la psychothérapie ou la psychanalyse puisse tarir l'inspiration. Et parfois, en revanche, parce que quand on atteint un certain niveau d'anxiété ou de tristesse, ben on n'est plus créatif. Donc, en fait, c'est important de sortir de ces états qui sont des freins, en fait.
Bienvenue, mes chers amis. Bienvenue, mes chers parents. Que vous soyez de Paris ou d'Oran.
Lorané Maurice El-Medioni, qui interprète Bienvenue à Biadi. C'est un chanteur judéo-arabe que vous aimez beaucoup, Jules.
Oui, parce qu'il a cette... comme souvent, d'ailleurs, la musique judéo-arabe, elle est comme ça. Hein, elle a cette gaieté intrinsèque. Et puis, un petit mode mineur, toujours, qui se balade quelque part et avec une espèce de petite tristesse sous-jacente qui donne le goût, le petit épice, le petit kink à l'allégresse.
Grégory,
une sorte de mélancolie qui est toujours un petit peu là, un peu présente, et qui du coup donne de la profondeur un petit peu même, en se disant, bon, il chante, c'est joyeux, c'est sympa, mais il doit y avoir quelque chose derrière un peu...
D'ailleurs,
un
dans
peu
les paroles profond. De cette chanson, il dit « Bienvenue à nos amis, à la famille, etc. Bienvenue à nos absents ». Et donc, en fait, il y a effectivement le manque et le vide qui est aussi envahissant dans la vie de ceux qui sont encore présents.
J'aimerais qu'on revienne à la Tunisie maternelle. Ce que vous aimez en Tunisie, c'est sa douceur. Et vous m'avez dit en préparant cette émission que la Tunisie, c'était Camus, moins la violence.
Oui, voilà, parce qu'on a le soleil, on a cette Méditerranée, mais...
Cher Albert Camus.
Il y a toujours des... Là, on va être dans l'émission devise aujourd'hui, mais il y a une espèce de proverbe qui circule, je ne sais pas d'où ça sort, pour la caractérisation des différents peuples du Maghreb, en fait, où il est dit que le Marocain est un savant, l'Algérien est un guerrier, et le Tunisien est une femme. Et en fait, je dirais, cette espèce de préjugé, il résonne avec quelque chose d'une douceur singulière de la Tunisie, qui a pris le Meshmoun, la fleur de jasmin comme emblème, et cette espèce de souci du kiff, de la micro-sensation du quotidien, du fait de s'éventer avec un éventail en sentant le parfum des fleurs d'oranger. Cette chose-là, elle a été poussée à son apogée par ce monde-là, en fait, tunisien. Et c'est ça qui est quand même assez touchant.
Sur ce rapport affectif, olfactif, à la cuisine tunisienne, vous avez parlé de cet effet miraculeux du mazar, de l'eau de fleurs d'oranger.
Oui, ça c'est le truc qui serait capable de sauver le budget de la sécurité sociale. C'est-à-dire que je pense que ça sert à tout. C'est un peu comme c'est un peu le white spirit de l'âme. On peut tout faire avec. Et je sais que quand on était malade, toute notre enfance, quel que soit le symptôme, même les angoisses, les antidépresseurs, les somnifères, etc. Hop, Mazar. Mazar, c'est de l'eau de fleur d'oranger un peu concentrée, comme ça qu'on mélange avec de l'eau. Alors, les puristes mettent évidemment 3 tonnes de sucre, et ça sert à tout. Et voilà, et on a vraiment hérité ça génération après génération.
Grégory Cohen, vous avez exploré les bonheurs gourmands de Jules.
Eh ben oui, et merci Ali de pas m'avoir tuyauté sur le Mazar, hein, parce que moi j'ai pas mal galéré. Au début, quand Ali m'a demandé d'écrire une chronique sur vos plaisirs culinaires, j'étais assez emballé. Et puis très vite, j'ai vachement galéré en fait, parce que quand on cherche l'homme derrière les planches, vous restez volontairement discret. Alors sauf là, bizarrement. Mais à force de dessiner des bulles, je pense que vous êtes planqué dedans. Vos idées, vos œuvres prennent toute la lumière et vos souvenirs, eux, restent assez personnels. Alors pour tout vous dire, du coup, je sais pas. Je sais pas quels furent vos repas d'enfance, vos madeleines à vous. Alors j'ai préféré imaginer, comme tout bon cancre qui se respecte, votre imaginaire. Je me suis dit qu'un dessin, c'est comme un plat. Ça commence souvent par quelque chose d'infime. Une impression, un parfum, un souvenir, l'observation. Le café vite avalé, le pain qu'on coupe sans faire de manière, une poignée de fruits qui tâche autant les doigts que la mémoire. Philippe Delerme a magnifié les plaisirs minuscules. Proust a théorisé la mémoire du goût. Vous en avez fait une grammaire. L'observation, l'esprit humain révélé par la petite scène, le petit travers, la petite case. Alors, si, quand même. Après, parce que j'ai un peu creusé, quand même, en vrai. Vraiment, non, en plus, vraiment, j'ai passé des nuits à relire tous les trucs.
C'était vous
possible. J'ai très peu... Oui, c'était moi. Et j'ai trouvé des infos sur Julien. Plus que sur vous, en fait, Jules. Au détour d'un article qui racontait vos parents, un mois en Auvergne et un autre en Bretagne, ou alors inversement. Et forcément, je me suis dit que Julien avait dû goûter à cette pomme de terre nouvelle, juste tiède, écrasée à la fourchette, qui a la simplicité d'une évidente. Ou à cette tarte aux myrtilles d'été, dont les baies tachent les doigts et les pages, et qui nous permet de dire plus facilement des mots bleus en souriant. Puis je me suis demandé, au-delà de la carpe farcie, quelle serait la cuisine dans l'univers de Jules, en fait, dans votre vraie vie. Un peu de cuisine tunisienne qui viendrait de votre mère. Mais là, c'est encore assez flou. Et puis cette cuisine, elle est complexe à comprendre. Prenez par exemple Larissa. On sait tous ce que c'est. Mmh. Eh ben non, pas dans cette cuisine. Parce que ce même mot, dans cette cuisine, désigne le condiment piquant auquel vous avez pensé, mais aussi un plat à base de blé, mais aussi un dessert au miel d'une douceur extrême. Alors on n'est pas plus avancé. Quand tu arrives dans un restaurant tunisien, tu dis « j'aimerais avoir de l'harissa », c'est pas ce qui va t'amener. Et du coup, j'ai préféré imaginer pour vous un plat un peu absurde, un peu décalé. Alors ça serait une sorte de gratin dauphinois que j'ai appelé le gratin de la réconciliation sociale. Il serait monté en strates très visibles, chaque couche sourcée d'un milieu social différent. Alors les pommes de terre classiques, plutôt populaires, sans chichi, mais efficace. Les patates douces, devenues tendance, plutôt bobo healthy. Et les vitelottes, furieusement instagrammables. Le tout alterné de Saint-Nectaire et de tomes fraîches. Un gratin où les couches ne s'opposent pas, elles s'empilent, mais sans se mélanger et sans se fréquenter quand même. Où le fromage fait société. Où chacun fond un peu, mais juste athée pour tenir ensemble. Alors voilà, je ne sais pas quels plats vous ont fait grandir. Je ne sais pas quels étés vous ont réellement nourri. Je ne sais pas non plus de quelle cuisine est faite votre mémoire. Et donc, à force d'imaginer, forcément, j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir si demain, vous nous invitez tous chez vous avec vos filles, qu'est-ce que vous nous cuisinerez ?
De la harissa à la harissa.
Non mais sur la harissa, vous m'avez parlé de la harissa en préparant cette émission, vous m'avez parlé que c'était une métaphore du bonheur.
Oui, parce que en fait, bon, c'est succulent, c'est addictif, et en même temps, on peut pas en avoir trop, hein, sinon on est malade. Et il y a cette espèce d'amertume alliée au salé, alliée à l'ail, et donc le fait qu'elle soit ambiguë, Larissa, y a un beau livre de, on va parler anthropologie tout à l'heure, qui s'appelle L'Afrique ambiguë. Hein, et là, ça pourrait être en fait l'autre nom de Larissa.
Alors, on a exploré rapidement votre côté tunisien, Jules. Explorons votre côté chinois. Vous êtes un spécialiste d'histoire chinoise, ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé d'histoire. Et je vous propose d'écouter le philosophe Alexis Lavis. En 2016, dans Grand Main vous fasse, il définissait à grands traits quelques éléments du bonheur selon le grand sage chinois Confucius.
Pour nous, le bonheur, c'est tout de suite un état individuel. C'est un état de la personne. Mais chez Confucius, ça n'a aucun sens. Le bonheur, c'est la manière dont on se relie aux autres. Donc déjà, le rappel que l'être humain est un être social et que tout être en rapport demande de penser des règles, de méditer des règles. Comment on fait un geste? Comment on dit bonjour? Comment on dit à quelqu'un qu'on l'aime? Comment on dit à quelqu'un qu'on ne l'aime pas? Et si vous ne savez pas faire ça, comment vous pouvez être heureux? C'est n'importe quoi.
Le philosophe Alexis Lavis dans Grand Main vous fasse en 2016. Jules, votre nom chinois, c'est lettré confucéen lumineux. Pai Juliang. Est-ce que je prononce bien ?
Oh, pas mal, il n'y a pas exactement tous les tons, hein. C'est une langue tonale.
Alors dites-le.
Pai Juliang, ça a été choisi cérémonieusement hein, par mon professeur de chinois, et effectivement c'est très important d'avoir un nom, et en même temps, pour mieux s'en détacher. Parce que je me suis rendu compte que ce qui me plaisait dans la grande diversité de la culture chinoise, c'était plutôt sa dimension côté taoïste que côté confucianiste. Il y a un côté un petit peu empesé, avec des règles.
Dans la pensée confucéenne.
Un sens terrible de la hiérarchie, qui conditionne l'harmonie en fait intérieure et sociale, qui est un peu éloigné, je dirais, de mon tempérament, alors que finalement le grand rire taoïste, cette espèce d'adaptation au flux de la vie, correspond plus à ma façon d'être et les envies que j'ai pour occuper cette existence.
Cette pensée taoïste qui a été très importante dans vos années de formation, imprègne-t-elle encore le jeune quinquagénaire que vous êtes devenu ?
Alors, j'ai pas cette obsession de la longévité qu'ont les taoïstes, hein, qui se laissent pousser la barbe, les cheveux, en grand chignon, leurs ongles, etc. Parce que voilà, la puissance vitale aussi s'incarne dans le corps. Mais je dirais, effectivement, ce refus de l'autorité, cette forme un peu aussi d'individualisme, mais dans le lien, ça me correspond pas mal.
En préparant cette émission, vous m'avez dit que le malheur autour du bonheur est aussi important que le bonheur lui-même.
Oui, en fait, c'était pour faire cette comparaison avec la peinture chinoise, dont un des grands principes qui est que ce qu'il y a autour du trait, le vide autour du plein, compte autant que le trait lui-même. En fait, c'est un ensemble qui est complémentaire et c'est qui marche de conserve. De la même façon, effectivement, le bonheur, on le définit par ce qu'il n'est pas, en fait. C'est toujours ça, en fait. Donc, c'est en creux qu'on voit les choses. Et puis, de toute façon, voilà, la bonne civilisation gréco-latine, platonicienne, qui nous raconte qu'on ne peut pas regarder le soleil directement, mais qu'on peut le regarder uniquement à travers les ombres qui projettent sur le mur de la caverne, c'est aussi un petit peu ça, finalement.
François Lelore.
Oui, mais que le bonheur est affaire de comparaison, alors c'est vrai chez les écrivains, chez les philosophes, mais c'était bien mesuré par les psychologues, c'est notre bonheur, en général, dépend d'un petit travail de comparaison qu'on fait sans arrêt entre notre situation actuelle et la meilleure qu'on a connue dans le passé. Notre situation actuelle et celle des autres, j'entends notre entourage, enfin les gens de notre condition, de notre couche sociale, on ne se compare pas à Bill Gates, on ne se compare pas aux petits paysans indiens, et puis entre notre bonheur et ce qu'on pense qu'il va arriver dans l'avenir. Donc, en période optimiste de croissance, on est encore plus heureux parce qu'on se dit « chouette, ça va être mieux ».
Jules, vous avez coécrit avec Charles Pépin « La planète des sages ». Est-ce qu'au quotidien, la philosophie vous aide dans la vie d'une quelconque manière ?
Je ne sais pas si ça m'aide, mais ça m'accompagne. Du moins, il y a des auteurs qui me sont plus familiers que d'autres. Moi, je ne suis pas un philosophe pur et dur. Je viens plutôt de l'histoire, comme vous le racontiez. Et j'ai plus une sensibilité littéraire. Donc, c'est ceux qui ont une plume qui me plaisent le plus. Et ce serait plus un Montaigne ou un Nietzsche qu'un Hegel, cher à Charles Pépin. Hein, moi, j'ai toujours eu du mal à suivre cette école de pensée. Mais c'est vrai que c'est intéressant, les ponts avec la pensée, je dirais, orientale, qu'a entretenu une bonne partie de la pensée grecque et par la suite un certain nombre de philosophes contemporains. Et effectivement, un Nietzsche a plus à voir avec Héraclite qu'avec Parménide. Et que finalement, ce lien, je dirais, un peu contradictoire, il agite des débats et des choix probablement.
Du Stabat Mater de Pergolèse. Pourquoi ce Stabat Mater résonne à ce point dans votre vie et vous rend heureux, Jules ?
Bah, c'était surtout un exemple du grand monde et de la grande folie baroque. C'est un moment de la culture qui, moi, me touche particulièrement et auquel je peux avoir recours, justement, dans des moments d'infortune ou quoi. C'est un bon repère parce que voilà, y a une suavité et une profondeur qu'on difficilement égalable. Donc, effectivement, Pergolèse en fait partie, Gluck, ce sont des voilà, et aussi, ou encore en architecture, c'est valable aussi. Mais ça marche pas tout le temps. Et en fait, je pense que, notamment, on se posait la question des œuvres d'art, en fait, en quoi l'art contribue au bonheur, possiblement, avec la beauté, du moins la beauté, je dirais, artificielle, manufacturée, que sont les œuvres d'art. Et en fait, selon les moments, Et c'est en ça aussi qu'il n'y a pas une définition figée du bonheur. Il faut vraiment juste être très à l'écoute, avoir des moustaches de chat pour sentir ce qui va ou ce qui ne va pas et qu'est-ce qui nous fera du bien à un moment et qu'est-ce qui peut nous refaire basculer du côté de, je dirais, du bonheur, du plaisir, au moins de la présence au monde. Et parfois, ça peut être la musique, parfois ça peut être la peinture, parfois ça peut être la littérature, à l'exclusion des autres. Moi, c'est vrai qu'il y a des moments, des choses qui étaient plus naturelles me sont devenues tout à fait étrangères.
Il y a quelques semaines, Jules, vous avez perdu votre père. Et au cours de ce deuil, c'est le contact avec la nature qui a été fondamental.
Oui, parce que vous me demandiez si est-ce qu'il y avait une musique, une œuvre qui était utile. Moi, j'ai offert à tout le monde Patrimoine de Philip Roth, en fait, qui raconte effectivement la maladie, la mort de son père. C'est un livre qui est à la fois hilarant et puis poignant, qui est vachement chouette, mais que j'avais lu avant. Donc, je ne me suis pas replongé là-dedans. Et je me suis rendu compte que parmi les grands recours, là, on peut convoquer aussi notre ami Charles Pépin, qui a écrit là-dessus, la beauté de la nature et du vivant sont quand même très, très efficaces. Donc,
ce sentiment océanique,
la profondeur océanique, voilà. Exactement, le ciel et la mer, ça reste nos meilleurs amis. Hein.
Ce sentiment océanique où on a le sentiment que tout est relié.
Voilà, ce continuum. Encore une fois, on est dans ce monde qui n'est pas le monde cartésien entre l'âme, le corps, le monde extérieur, les animaux et les hommes, mais qu'il y ait une espèce d'ensemble de flux reliés. Quand on le ressent, plutôt que quand on le théorise, c'est des moments d'intensité de vie difficilement comparables.
François Lelor.
Oui, mais en écoutant Jules, je constate que voilà, vous aussi, vous savez identifier vos différentes sortes de bonheur et selon les moments, vous orientez plutôt vers l'un ou vers l'autre, c'est-à-dire la contemplation solitaire, le sentiment océanique, la relation avec les autres. Vous en parlez pas, mais vous en parlerez, l'activité dans le travail que vous aimez, à qui vous donnez un sens. Donc on a tous une sorte de menu qui peut varier selon les gens, parce qu'il y a des gens plus doués pour le plaisir hédonique que pour le travail régulier, d'autres c'est l'inverse. Mais on a tous la possibilité, si on a évidemment un peu de chance et pas trop d'adversité, le moyen de trouver notre chemin vers le bonheur. En sachant aussi, dernier point, que l'avoir ça comme but est un peu absurde. Mmh. C'est une conséquence de tout ce qu'on aura fait.
Jules, les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère ont eu un impact considérable sur votre conception de l'existence.
Et probablement pas que pour moi. Et on est dans cette semaine de commémoration des 10 ans des attentats du 13 novembre 2015. Et évidemment, c'est pour beaucoup d'entre nous une espèce de changement de paradigme. Moi, je me souviens, pour revenir à cette histoire d'œuvre, que toutes les choses qui marchaient efficacement pour les moments de détresse ou de tristesse ou de terreur auparavant ne marchaient plus. La musique ne marchait plus, la littérature ne marchait plus, rien n'y faisait, y compris cette histoire de sens de la nature océanique ou je ne sais quoi. Et en fait, je m'étais réfugié en Angleterre tout de suite après, en passant des heures et des heures dans les musées anglais. Et la seule chose, mon seul recours auquel je me raccrochais, c'était les galeries des portraits à la Tate, par exemple. Et en fait, de voir des visages venus du passé, cette espèce de carottage profond dans une humanité disparue. Se dire que finalement, les visages de gens qu'on aimait et qui ont disparu, ils ressemblent aussi à ces portraits d'il y a 100, 200, 300, 500 ans, qui nous regardent encore, parce qu'il y a une présence de ces œuvres qui sont sublimes, et étaient le plus bouleversant, le plus émouvant, et je dirais, ces personnages artificiels, dans ces portraits, avaient une vie supérieure à tout ce que je pouvais voir autour, et finalement au visage blême des vivants. Il y a des surprises qu'il faut savoir guetter et ne pas laisser passer.
C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou, Picsou. C'est le plus puissant de tout Canardville.
Sans transition.
Sans transition, un peu de légèreté. Jules, vous publiez chez Glénat un nouvel album de Picsou avec Keramidas, Picsou et les Beats Coin Coin. Alors Picsou, c'est l'antithèse de votre conception du bonheur. Pour vous, il synthétise l'impasse du bonheur. Pour vous, Picsou, c'est le symbole de l'incomplétude perpétuelle.
Alors, je vais faire thèse, antithèse, synthèse, parce que c'est vrai...
C'est ce que vous m'avez dit en préparant cette émission.
Voilà, mais entre-temps, j'ai réfléchi. C'est-à-dire que Picsou, voilà, il y a l'adage « l'argent ne fait pas le bonheur ». Et effectivement, Picsou, c'est quelqu'un qui est extrêmement tourmenté. santé. Il a son sous-fétiche, il a une fortune, c'est le canard le plus riche du monde. Alors, en l'occurrence, il est encore plus malheureux dans Picsou et les Bitcoin-coin parce qu'il est dépassé par les canards de la tech qui ont tous des cryptos. Et du coup, il va devoir investir dans les Bitcoin-coin pour reconquérir sa fortune. Mais effectivement, c'est cette course au toujours plus. C'est l'espèce de désir perpétuellement inaccompli. Donc, même quand il est riche, il veut être encore plus riche, toujours, encore et encore. Et donc, c'est une douleur aussi, cette recherche. Mais est-ce que, et ça c'est la question justement, il ne serait pas tout à fait heureux dans cette recherche de l'argent? C'est pas l'argent qui le rend heureux, c'est la recherche et l'accumulation. Et là, pour le coup, on est dans le personnage camusien total du Sisyphe, avec cette phrase de Camus dans le mythe de Sisyphe, c'est, il faut imaginer Sisyphe heureux. Mmh. Et donc, cette espèce de mouvement perpétuellement recommencé, bah, c'est la vie même. Et c'est sa raison d'être à Picsou. Donc, en fin de compte, grand bien lui fasse ce canard.
Votre regard, François Lelore ?
Dans l'album de Jules, effectivement, Picsou devient malheureux parce qu'il s'aperçoit qu'il y a un milliardaire plus riche que lui. Donc, il est sans arrêt poussé par ça. Et je me souviens de l'interview d'un grand dirigeant français il y a quelques années qui disait « J'aime être le premier en tout ». Alors, je vous laisse deviner de qui s'agit-il.
On ne voit pas du tout.
Et cette course, effectivement, vers la place de premier, perdue, reconquise, est une source de bonheur. Là, on serait plus dans le démonia d'Aristote, c'est-à-dire l'activité qui donne un sens poursuivi vers un but. Alors évidemment, chacun son sens, c'est pas le sens de tout le monde de devenir le plus riche possible, mais pour ceux pour qui c'est le sens de la vie, eh bien, ils sont assez heureux, et parfois des échanges d'orientation, ils peuvent après se mettre à faire de l'humanitaire, enfin, fonder des œuvres.
Il y a une étude qui était sortie il y a quelque temps qui montre qu'à partir d'un certain niveau de revenu, ensuite on est malheureux, quoi qu'il se passe. Et donc je crois que Picsou n'a pas tellement lu cette étude finalement.
Allez Jules, j'aimerais vous soumettre au fameux questionnaire de Bernard Pivot dans Bouillon de Culture. Votre mot préféré ?
Alors ça va résonner avec la chronique précédente. Il va sans dire que tout ce que je vais répondre aujourd'hui pourra changer demain.
On
est dans Héraclite, hein, on ne se mène jamais deux fois dans le même fleuve. Mais là, je dirais patate. Patate, c'est un mot franc, c'est un mot simple, c'est un mot direct et qui est sympathique, qui suscite le sourire autour de cette table. Et en plus de tout, c'est même pas un mot indo-européen, c'est un mot qui vient du Quechua et du Taïno. Donc il n'y a pas tellement de mots amérindiens dans notre langue, donc gloire à la patate.
Le mot que vous détestez ?
Alors il y en a pas mal évidemment, mais il y en a un où rien ne va, c'est N plus 1. Alors, N plus 1, je ne sais même pas si c'est un mot, c'est les acronymes dans toutes leurs conneries, et en plus, cette espèce de synthétisation de la hiérarchie débile, vraiment, ça me hérisse.
Votre drogue favorite ?
Alors, si on reste dans les hormones du bonheur, pour le coup, il y a vraiment la dopamine, pour moi, c'est le sourire ou le rire d'autrui. En fait, faire rire les gens.
Le son, le bruit que vous aimez ?
Alors, un truc très simple qui est la respiration. Calme d'un bébé. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé près d'un bébé, cette espèce de petit souffle d'ange là, ça vaut toutes les ASMR.
Le son, le bruit que vous détestez ?
Alors, de façon générale, les alertes sur les portables. Et j'en suis c'est le son de l'esclavage. C'est le son des chaînes qui nous entravent. On est absolument pieds et poings liés avec ça. Et c'est la façon dont on nous siffle. C'était, je crois, d'ailleurs, la grand-mère de Proust qui ne voulait pas avoir le téléphone parce qu'elle n'avait pas du tout l'intention d'être sifflée par un appareil comme une bonne.
Votre juron, gros mot ou blasphème favori ?
Alors, moi, j'aime bien raclure. Parce que raclure, selon le ton avec lequel on le prononce, ça peut être très agressif ou au contraire, affectueux.
Oui.
Non mais quelle raclure ! Si on le dit ça avec un sourire, c'est agréable.
Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque ?
Alors, je pense ni l'un ni l'autre. Je pense qu'on devrait tester les billets de banque avec un petit miroir, un truc réfléchissant. Parce qu'en fait, l'argent est vraiment ce qu'on en fait.
Le métier que vous n'auriez pas aimé faire ?
Alors, immédiatement, lobbyiste pour les industries extractives. Pourtant, c'est un métier qui a le vent en poupe.
La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné ?
Alors, sûrement une plante, parce que moi, je suis extrêmement curieux de ce que c'est que la vie végétale. Et pour être faussement modeste, le lichen. C'est à la fois humble et snob.
Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire ?
Encore toi ?
Dernière question. Dans une semaine, Jules, une énorme météorite s'abat sur notre planète. Destruction totale. Que faites-vous en attendant l'apocalypse ?
Je réécoute cette émission. C'est tellement bien.
Allez, dans un instant, la punchline philo de Thibaut de Saint-Maurice, les célèbres phrases percutantes de l'histoire de la philosophie. On se retrouve juste après avoir écouté Le penseur de Benjamin Biolay.
regarde le ciel immobile et se demande où sont les villes et les ténagères invincibles qui n'est pas revenu de l'ouest. Il regarde la mer impavide qui d'un coup d'un seul se débride, puis boit la gourde à moitié vide. Le ciel et l'eau se font détresse. Il s'empare d'une lame invisible, puis solennellement désigne le port où s'alignent les grues, là où jadis il a vécu une forme de bonheur indicible, avec sa femme, son chien, ses filles. Il se dit je suis encore chaud, j'aime bien mourir maintenant, mon troupeau. J'emmenais mon bateau. Et puis au cas où, je dis bien au cas où, y'aurait rien là-haut. Pourrais-je emmener les poteaux. Il regarde la route de l'exil et se demande où vont les îles et les grands oiseaux indociles en forme de signaux de détresse. Il rêve des berges du Tibre, du Nil, humant la fumée d'une de Nil. Il reste au loin quelques collines allongées dans la brume épaisse. Avant ici avait des chenilles, des grands bourgeois d'une grande ville, le confluent, le pauvre et nu, et le jardin montre son cul. Le déclin était prévisible, l'humanité si peu sensible. Mais tant qu'il y aura des bistrots, je veux bien mourir maintenant. Troupeau, et puis au cas où, je dis bien au cas où, y aurait rien là-haut, pourrais-je emmener mon bateau. Et puis au cas où, je dis bien au cas où, y aurait rien là-haut, pourrais-je emmener les poteaux.
Benjamin Biolay interprétait Le Penseur.
France Inter.
Nietzsche, allez.
Rends bien vous face.
L'homme qui a dit mort est pareil au chien qui mord une pierre.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit que l'homme n'est pas toujours un loup pour l'homme.
Ah bon ?
Ce matin, Thibault, vous vous intéressez à cette punchline, à cette phrase percutante de Claude Lévi-Strauss, « Je hais les voyages et les explorateurs ».
Alors oui, Ali, c'est une phrase qui claque, et qui claque d'autant plus qu'elle est donc la première ligne d'un livre de Claude Lévi-Strauss, donc l'auteur, pas le fabricant de jeans, pour Grégory.
Merci, Thibault.
Livre intitulé donc « Triste tropique », dans lequel il raconte ses années de vie auprès des populations amérindiennes au Brésil. Alors les Caduveo, les Bororo, les Nambiquara et les Tubi Kawaib. Claude Lévi-Strauss, c'est un des ethnologues et des anthropologues les plus importants du XXe siècle. Pour faire simple, ethnologie et anthropologie, ce sont deux sciences humaines. L'ethnologie, elle étudie la manière de vivre, la culture de différents groupes humains. Et l'anthropologie, quant à elle, elle cherche à comprendre ce qui fait l'humanité de l'homme, quelle que soit sa culture. L'anthropologie se nourrit donc des observations et des connaissances que récolte l'ethnologie. Mais en tant qu'ethnologue, justement, il faut voyager. Et il faut voyager même longtemps. Il faut passer du temps auprès des populations que l'on étudie. Dit, comment Lévi-Strauss peut-il donc commencer le livre dans lequel il raconte ses voyages au Brésil par cette phrase « Je hais les voyages et les explorateurs ».
Peut-être parce qu'il nous invite à changer de regard à la fois sur le voyage et sur l'ethnologie ?
Ben oui, exactement. Commencer son récit par cette phrase « Je hais les voyages et les explorateurs », ça veut dire deux choses. La première, c'est que Lévi-Strauss critique ceux qui voyagent ou qui explorent par goût de l'exotisme. Ceux qui veulent ressentir le frisson de la différence, de l'inconnu, du nouveau. Cette haine des voyages, c'est la haine de ce regard que les voyageurs portent sur l'étranger. Sur cet étranger qui n'est étrange que parce qu'il est différent de ce que l'on connaît. Alors d'ailleurs, c'est une tentation qu'on a toutes et tous quand nous voyageons, celle de ne considérer les différences de manière de vivre que sous l'angle de l'étrangeté, alors que nos manières de vivre le sont tout autant pour ceux que l'on visite. Parce que quand on voyage, en vérité, l'étranger, eh bien, c'est d'abord nous. Quand donc Lévi-Strauss déclare sa haine des voyages et des explorations, explorateur, il critique une certaine manière de voyager qui renforce les préjugés et réduit les différences à des stéréotypes. Lévi-Strauss, il ne faut pas l'oublier, il écrit ça en 1955, en pleine période décoloniale, mais aussi en plein essor du tourisme de masse, parce qu'il sent bien que ce tourisme qui se développe prolonge d'une certaine manière le regard colonial. La deuxième raison pour laquelle Lévi-Strauss écrit cette phrase « Je hais les voyages et les explorateurs », c'est qu'elle est le point de départ d'une explication de sa pratique de l'ethnologie. Pour lui, l'ethnologue n'est pas un aventurier. Ce qui compte, ce ne sont pas les détails et les anecdotes sur les conditions de ses voyages et sur ses conditions de vie auprès des populations amérindiennes. Ce qui compte, c'est la démarche de connaissance, c'est l'observation qu'il fait, c'est le recueil précis des rites, des croyances ou des systèmes de filiation d'une population donnée. L'ethnologue est bien sûr intéressé par la différence de ces populations, mais il doit en rendre compte en laissant de côté tous ses préjugés d'une part, et puis d'autre part, ce qui compte, c'est pas seulement la différence des manières de vivre, mais c'est la comparaison et la mise en relation avec d'autres manières de vivre et d'autres populations humaines. Voilà l'essentiel. Il n'y a pas de hiérarchie entre les cultures humaines. Les cultures dites primitives peuvent être tout aussi complexes que les cultures dites avancées, et surtout, toute culture a quelque chose à apprendre aux autres sur la manière dont se déploie notre humanité commune. Avec Lévi-Strauss, on peut donc apprendre à haïr les voyages en ce sens pour inventer une nouvelle manière de rencontrer l'humanité tout autour du monde.
Les punchlines de la philo de Thibaut de Saint-Maurice à podcaster sur l'appli Radio France. Et n'oubliez pas l'heure philo avec notre camarade Patricia Martin ce soir à 20h. Ce soir, une masterclass sur la liberté. Merci aux amis du vendredi, Thibaut, Grégory et Sandra. Sandra qu'on retrouvera la semaine prochaine dans le nouveau film de Dominique Moll.
Tout à fait. Dossier 137 avec Léa Drucker.
Merci Jules. Picsou et les bits coin-coin, c'est publié chez Glénat avec au dessin Keramidas. Merci beaucoup François Lelor. Votre dernier livre, c'est « Soyez gentils, mais pas trop ». Merci à Nathalie Romero à la programmation de cette émission avec la collaboration de Noé Brabant. Merci à Anaïs Reynard et Antoine Larcher pour la réalisation. Merci à Valentine Chedebois pour la programmation musicale. À la technique ce matin, Jérôme Ragano.